Bien, cette étude, comme vous le savez, elle possède un double objectif. Hein, l'étude qui s'intitule Pourquoi je crois, c'est à la fois pour donner aux personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, qui n'ont pas encore placé leur foi en Jésus-Christ, de leur donner les raisons pour lesquelles, eh bien, je crois, pour lesquelles nous croyons que la Bible est vraie, que la Bible, elle est la parole de Dieu, que Jésus-Christ est vraiment Dieu, et que la raison de sa venue, c'est pas juste pour nous donner une simple fête à célébrer en fin d'année, parce qu'on sait bien que c'est pas à ce moment-là qu'il est né, mais pour nous réconcilier justement avec Dieu, et que toutes ces choses, hein, nous les présentons dans ce but-là, hein, un peu comme l'évangile de Jean l'a fait, hein, tout ceci vous a été écrit, hein, pour que vous croyiez, hein, que vous croyez en Jésus-Christ. Et c'est pour nous aussi à la fois donc les moyens de nous équiper, nous, en tant que chrétiens, pour mieux partager. Parce que l'évangélisation, si vous voulez, bon, il y a cet aspect de, oui, présenter l'évangile de Jésus-Christ, mais souvent, hein, il s'agit aussi, pour beaucoup de personnes, dans la continuité des conversations, hein, parce qu'on sait bien que des fois, quand on sème quelque chose, ça ne produit pas quelque chose tout de suite. Hein, parfois, il faut revenir arroser. Hein, et que, on a besoin de pouvoir répondre aux questions que peuvent nous poser les uns et les autres au sujet de Dieu, au sujet de sa parole, au sujet de Jésus-Christ, et de pouvoir le faire donc avec amour, avec grâce et avec douceur, comme Pierre nous le rappelle, hein, quand quelqu'un nous demande raison de notre foi. Mais voilà, on a vu beaucoup, beaucoup de choses déjà sur ce thème-là de pourquoi je crois, et on était en train de voir en fait, eh bien, que la Bible présente des textes extraordinaires dans les prophéties. Extraordinaires parce que les prophéties ont été données à la fois pour les gens qui ont vécu à cette époque et qui ont entendu ces prophètes leur parler des mystères de Dieu, mais ces prophéties ont eu un impact à travers les siècles dans la vie, hein, de milliers, de milliers, de milliers de personnes. Et ces prophéties, même traversent donc les siècles, et parfois on les comprend simplement peut-être aujourd'hui ou longtemps après, on comprendra encore mieux certaines choses, parce que dans les prophéties de la Bible, certaines se sont déjà accomplies, et d'autres restent encore à être accomplies. Mais ce que je voulais souligner, c'est surtout que dans la Bible, il y a beaucoup de prophéties qui se sont déjà accomplies, et certaines d'entre elles ont un aspect vraiment extraordinaire dans le sens où on n'a pas simplement le message de la Bible qui nous dit que ces prophéties se sont accomplies, on a également des traces historiques, archéologiques, qui appuient ce que la Bible dit au sujet de ces événements-là. Donc on avait déjà vu, hein, la dernière fois au sujet, hein, de la prophétie concernant Tyr, mais ce soir on va parler de cette prophétie que l'on trouve dans Ésaïe, Ésaïe chapitre 44, et c'est au sujet d'un certain Cyrus. Un certain Cyrus. Alors avant d'arriver, hein, jusqu'à ce point-là, je tenais à donner vraiment l'arrière-plan historique, hein, de cette prophétie et des événements que cette prophétie mentionne. D'abord, bon, le prophète Ésaïe, il a exercé son ministère il y a très 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 longtemps, n'est-ce pas? Il a exercé son ministère prophétique entre 739 à 680 avant Jésus-Christ. 739 à 680 avant Jésus-Christ. Et pour rappel, à ce moment-là de l'histoire du peuple d'Israël, eh bien, c'est pas la joie, comme on dit. Hein, en ce moment, avec notre famille, on a lu, hein, Un roi et on est en Deux rois en ce moment. Et puis, on voit tout ce qui s'est passé après le règne de Salomon et comment le royaume d'Israël a été divisé en deux, avec la partie du nord, hein, avec qui sera appelée royaume d'Israël, et puis au sud, le royaume de Juda. Et de voir comment ces deux parties du peuple ont vraiment agi de manière très 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 différente vis-à-vis de l'Éternel. Il faut savoir qu'au nord, tous les rois qui ont été au nord ont été de très mauvais rois, exécrables rois, qui ont amené le peuple dans l'idolâtrie, une idolâtrie tellement profonde que ça a amené justement sur le peuple d'Israël les châtiments de Dieu, et on va en parler, hein, ce soir. Et puis, dans le royaume du sud, là, c'était un peu les montagnes russes, si vous voulez, au sujet des rois du sud. Certains étaient bons, certains étaient mauvais. Des fois, on avait un père qui était très mauvais avec un fils qui a fait des choses excellentes pour le Seigneur, et un contraste flagrant. Moi, j'aime beaucoup utiliser d'ailleurs ces exemples-là pour dire aux jeunes quand on est dans les camps que vous ne pouvez pas blâmer vos parents pour qui vous êtes. Entièrement, ok? Parce qu'on a toujours un choix, que même si on a de mauvais parents, on peut toujours devenir quelqu'un d'extraordinaire dans le service pour le Seigneur. Mais voilà, il y a donc ces deux royaumes, hein, Israël est divisé en deux royaumes, et les choses ne vont pas si bien que cela, donc pour surtout le royaume du Nord. Il faut savoir que en 722 avant Jésus-Christ, on a la ville de Samarie, hein, qui est prise, qui va tomber donc sous la main de Salmanazar le Ve, qui est roi d'Assyrie. Et à ce moment-là, déjà, de nombreux Israélites vont être emmenés en captivité, hein, ils vont être disséminés à travers le royaume assyrien. Et là aussi, hein, pour expliquer un peu plus l'histoire, hein, du peuple d'Israël, mais même l'histoire du peuple d'Israël à l'époque de Jésus-Christ, il faut savoir qu'à ce moment-là, le roi d'Assyrie, il va faire quelque chose, c'est qu'il va faire venir d'autres peuples avec d'autres cultures et d'autres religions s'installer dans le royaume du Nord, hein, le royaume d'Israël. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir un mélange des peuples, un mélange culturel, mais surtout un mélange religieux, hein, qui a beaucoup influencé, eh bien, la vie spirituelle des Israélites dans le Nord, dont les croyances ont été déjà beaucoup teintées de syncrétisme, parce qu'ils étaient déjà baignés dans l'idolâtrie. Il faut savoir qu'ils avaient des hauts lieux où ils sacrifiaient aux idoles, mais ils étaient toujours à l'Éternel, l'Éternel, mais ils mélangeaient tout. Ils mélangeaient tout. Et là, avec ce que le roi d'Assyrie fait, il y a encore plus de ce mélange-là, hein, sur le plan spirituel. Et de cette mixité, si vous voulez, va naître une ethnie qui va expliquer les relations du peuple juif à l'époque de Jésus-Christ avec un autre peuple qui était très proche. Parce que ces gens-là, ce sont ceux qui vont devenir les Samaritains. Alors, ça explique déjà beaucoup aussi des tensions, hein, à l'époque de Jésus entre les Juifs et les Samaritains, parce que les Juifs à l'époque de Jésus, bon voilà, ils avaient effectué quand même un certain retour vers l'Éternel, mais pas si bon que ça aurait pu l'être. Mais ils comprenaient aussi que bon, les Samaritains, ils avaient quand même des choses sur le plan théologique et pratique qui correspondaient pas du tout à ce qu'on trouve dans le judaïsme, et donc il y avait ces tensions qui existaient. Mais voilà, le royaume du Nord, hein, se fait attaquer, beaucoup emmenés en captivité, mais on aurait pu penser que bon, le royaume du Sud allait être épargné, et pendant un certain temps, hein, le royaume du Sud va pouvoir subsister, mais en 605 avant Jésus-Christ, il y a un énorme événement qui va se produire. On a Nebuchadnezzar, roi de Babylone, qui va se battre contre le pharaon égyptien Necho. Et à la bataille de Carchemish, il va écraser vraiment les Égyptiens. Si bien qu'il va repousser les Égyptiens jusqu'en Égypte. Et à ce moment-là, Nebuchadnezzar, ben, il vient de traverser le royaume de Juda. Il a vu au passage Jérusalem et dit, tiens, c'est intéressant. Et à ce moment-là, donc, c'est Joachim. Alors, notez bien le M, hein, parce que le roi suivant, lui, ça s'appelle, il s'appelait Joachim, avec un N, hein, pour pas porter à confusion. Hein, mais voilà, on a Joachim qui, lui, en fait, c'était un pion du pharaon. Il payait déjà un tribut au pharaon. Alors, bien sûr, quand Nebuchadnezzar, il passe par là, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, bon, ben maintenant, t'arrêtes de payer pharaon, tu vas me payer moi. Et donc c'est à ce moment-là que va commencer en fait les déportations déjà. Il va y avoir une première déportation d'une partie de la population de Juda vers Babylone. Et vous en connaissez un, Daniel, hein, le prophète. C'est à ce moment-là que lui, avec ses compagnons et d'autres, vont être emmenés en captivité à Babylone. Alors quelques années plus tard, on est déjà dans la 8e année du roi Nebuchadnezzar. Et là, le royaume du Juda, il est donc sous le règne de Joachim. Et Joachim, il dit, moi j'en ai marre de payer le tribut. J'en ai marre de payer les impôts, Nebuchadnezzar. Alors bien sûr, Nebuchadnezzar, hein, vous imaginez, hein, la différence de taille, dans puissance des deux royaumes. Nebuchadnezzar, ça lui plaît pas. Et donc, il va revenir à Jérusalem, l'assiéger en 597 avant Jésus-Christ. Et là, il va carrément prendre Joachim. Allez, tu viens avec moi en Babylone. Et tu vas être emmené captif, toi, tes femmes, sa mère, les différents serviteurs, beaucoup des dignitaires du pays, hein, et beaucoup d'ouvriers qualifiés, comme nous le rapportent donc les passages de 2 Rois 24 et 2 Chroniques 36. Ensuite, on aurait pu penser, bon, maintenant ça va être tranquille pour Juda. Pas tout à fait. 586 avant Jésus-Christ, Nebuchadnezzar revient de nouveau à Jérusalem pour mettre fin à une ultime révolte du royaume du Juda vis-à-vis de l'Empire babylonien. Et là, Juda est sous le règne de Sédécias. Et là, Nebuchadnezzar, il en a marre, il rase la ville, il rase le temple, il ne reste plus rien, et il emmène la population de Juda en captivité à Babylone. Alors, plusieurs livres, hein, des Écritures, nous parlent justement de cet exil à Babylone. Vous pouvez relire, hein, Deux Rois, Deux Chroniques, les livres d'Esdras, de Daniel, de Néhémie également, Jérémie, Ézéchiel. Hein, tous ces livres-là nous parlent de ces temps-là. Et on a aussi certains psaumes, hein, qui nous parlent de cette captivité à Babylone. Mais voilà, donc on a Ésaïe et Ésaïe, lui, il se situe donc pas longtemps après la chute du royaume du Nord, mais alors bien avant la chute du royaume de Juda. Et au cours de son ministère, Ésaïe, il va vraiment exhorter le peuple de Juda, à exhorter le roi à placer sa confiance en Dieu et en lui seul, hein, qui est celui qui leur avait promis cette terre dans laquelle ils vivaient, n'est-ce pas? Et il a vraiment incité le peuple, le roi, à ne pas compter sur l'Égypte, à ne pas compter, hein, sur des alliances avec d'autres royaumes, mais de compter sur l'Éternel pour les protéger. Et alors dans le livre d'Ésaïe, on a beaucoup de prophéties. On a des prophéties qui concernent le Messie. Alors on aime bien y tourner. On va par exemple prendre Ésaïe 53, hein, qui nous parle de l'œuvre du Messie. Mais il va également prophétiser sur l'exil de Juda. Il va prophétiser sur la reconstruction de Jérusalem et du temple. Mais là où cette prophétie, elle s'avère vraiment, on va dire, extraordinaire, parce que c'est pas souvent qu'on voit ça, on a un nom qui est donné. On a un nom qui est donné, hein, qui va être essentiel dans l'histoire du peuple d'Israël. Et alors, c'est pour ça que je vous invite donc à ouvrir dans Ésaïe 44, et on va regarder ben, justement au verset 28. Et le verset 28 nous donne ce nom. Ésaïe dit: Je dis de Cyrus, il est mon berger, et il accomplira toute ma volonté. Il dira de Jérusalem qu'elle soit rebâtie, et du temple qu'il soit fondé. Bon, à ce moment-là, le temple, Jérusalem, ils sont encore intacts. Mais Ésaïe, par cela, il est en train de dire aussi, bon, la ville va être détruite, le temple va être détruit, et il y aura cet homme, Cyrus, qui va ordonner à ce que la ville soit rebâtie et que le temple soit rebâti. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire que nous avons dans les Écritures. Et comme je l'ai dit, cette prophétie, on a aussi des éléments historiques et archéologiques qui nous montre comment cette prophétie s'est accomplie. Bon, le roi Cyrus, il est mentionné au moins une bonne trentaine de fois dans les Écritures. Il s'agit de Cyrus le Grand, hein, le deuxième, qui a régné en Perse de 539 à 530. Donc, un petit règne, un petit règne. Mais c'est un règne qui a eu quand même beaucoup d'impact. On pourrait regarder à ces deux passages dans Deux Chroniques et Esdras, et les deux sont très assez similaires. Mais voilà. Concernant Cyrus et Ésaïe, on a un espace de plus de 150 ans. 150 ans avant que Cyrus ne vive, Ésaïe prophétise le retour des captifs, prophétise donc la reconstruction de Jérusalem, la reconstruction du temple, et il donne le nom du roi, de celui qui autoriserait cela, et c'est Cyrus. Alors, lisons au moins déjà, bon, le passage de Deux Chroniques. De Chronique 36, verset 22, nous dit « La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel prononcée par la bouche de Jérémie. » Et vous allez me dire « Mais hey, il dit Jérémie, il dit pas Isaïe, là. » On va y venir. Okay. Parce que c'est lié tout ça. Et donc, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fait faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, l'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem, en Juda. Qui d'entre vous et de son peuple, que l'Éternel, son Dieu, soit avec lui et qu'il monte. Et bon, Esdras, hein, réitère plus ou moins ces mêmes propos et décisions que Cyrus a eues. Alors effectivement, Cyrus a aidé le peuple juif à retourner donc dans les terres d'Israël, de retourner à Jérusalem, rebâtir le temple, rebâtir la ville. D'ailleurs, le temple, hein, il a été rebâti donc sous la direction de Zorobabel, de Josué, hein, le grand prêtre. Cyrus va même jusqu'à restituer les trésors, hein, les trésors qui appartenaient au temple. Il va les restituer. Et donc cette bienfaisance, hein, de la part de Cyrus a justement contribué à relancer la pratique du culte à l'Éternel dans le temple à Jérusalem. Et donc la captivité à Babylone, elle a duré 70 ans. 70 ans, pendant 70 ans, voilà, le peuple était en dehors des terres d'Israël, de Juda. Il n'y avait plus de temple. Pendant 70 ans, on a un peuple qui n'a pas pu vraiment apporter un culte comme ils auraient dû le faire selon la loi que Moïse leur avait apportée de la part de l'Éternel. Mais comme on a vu dans ce passage, on parle de Jérémie, effectivement, parce que Ésaïe, ce n'est pas le seul à avoir prophétisé concernant cette période. On a le prophète Jérémie qui, lui, a exercé son ministère entre 627 et 586 avant Jésus-Christ, et celui-ci donna donc même le nombre d'années qu'allait durer la captivité. Dans Jérémie chapitre 29 et verset 10, il dit « Mais voici ce que dit l'Éternel, dès que 70 ans seront écoulés pour Babylone, je me souviendrai de vous et j'accomplirai à votre égard ma bonne parole en vous ramenant dans ce lieu. » Donc on a Ésaïe qui nous parle de Cyrus, qui nous parle de la reconstruction de Jérusalem et du temple. On a Jérémie qui nous dit « Ça va durer 70 ans à Babylone. » Et ensuite, l'Éternel va vous faire revenir en Israël, dans les terres de Juda. Alors, on en vient à la partie historique maintenant. Parce qu'effectivement, en 1879, on retrouve un cylindre en argile qui retrace les exploits, mais aussi la politique de Cyrus. Et ça, c'est quelque chose qui va amener beaucoup d'informations, parce que quand ils ont trouvé ce cylindre dans les ruines de Babylone, ils ont compris qu'il y avait là un édit, hein, que Cyrus avait donné, qui faisait part donc de sa décision d'autoriser les peuples déportés à Babylone, les autoriser à rentrer dans leur propre pays et de retourner en liberté dans leur pays pour qu'ils puissent continuer à vivre comme ils auraient dû le faire sans l'impact de Salmanazar et de Nebuchadnezzar. Mais il leur permet de faire cela. Donc, il n'y a pas que Israël qui a pu retourner dans ses terres. En fait, il y a plusieurs peuples qui ont pu retourner dans leurs terres. Mais ça nous montre qu'effectivement, il y a eu cette décision de Cyrus, comme Ésaïe l'a mentionné, et Jérémie qui mentionne cette période de 70 ans. Et ce retour d'exil, il est généralement reconnu comme s'étant accompli donc entre 538 et 537 avant Jésus-Christ. On est dans cette période d'environ 70 ans. Alors peut-être certains chipoteraient et disent, mais ça fait pas 70 ans. Ouais, mais attendez quand même. Entre la prophétie d'Ésaïe, celle de Jérémie, les événements historiques, la découverte archéologique de ce cylindre et de voir comment ces choses donc coïncident justement avec la prophétie de l'Éternel concernant eh bien le retour du peuple d'Israël dans cette terre, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Alors, on aura l'occasion hein, de voir plus tard d'autres prophéties dans les Écritures hein, qui nous montrent que les prophéties, elles sont aussi là pour nous montrer cette capacité extraordinaire, cette puissance de Dieu à connaître les événements futurs et à les partager. Et pour beaucoup, hein, les prophéties, hein, on dit oh, c'est bizarre, c'est mystérieux, etc. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de prophéties. On se gratte beaucoup la tête à essayer de comprendre beaucoup des prophéties. Hein. Tout le monde n'est pas d'accord sur la signification des prophéties. Mais au moins, moi, ce que je voulais pointer, c'était déjà ces deux prophéties, celle concernant Tyr, celle concernant le retour d'exil avec Cyrus, qui était nommé hein, par Ésaïe plus de 150 ans avant que Cyrus n'existe. Et que tout cela se coïncide exactement d'un point de vue historique, c'est extraordinaire. Pour moi, ce n'est pas quelque chose qu'on peut considérer comme une coïncidence. Or, les prophéties, elles servent aussi à cela. Elles servent à nous montrer que, voilà, les prophéties accomplies, elles sont là aussi pour déjà nous bien renforcer notre foi, mais aussi pour montrer aux gens que ça, c'est quelque chose à considérer aussi. On n'est pas en train de partir de quelque chose que on est. Beaucoup de gens voient, on va dire, la foi comme quelque chose d'illogique. Mais la foi, en fait, c'est quelque chose de très logique. Parce que ce n'est pas juste comme ça sur une impulsion ou quoi que ce soit, mais la parole de Dieu nous enseigne et nous montre les choses concernant Dieu. Et ensuite, on a d'autres éléments qui sont même en dehors, on va dire, du milieu chrétien, du milieu biblique, hein, comme l'histoire, comme l'archéologie, qui vont apporter davantage de poids au message que la Bible donne. Donc c'est pas la foi, c'est pas quelque chose qui vient de quelque chose d'illogique, bien au contraire, hein, la foi est quelque chose de raisonnable, hein, et c'est ce qui nous amène à comprendre hein, qui est Dieu et la puissance de sa parole, c'est ce qui nous amène à nous incliner devant lui, à implorer sa grâce et qui nous a amenés à connaître Christ, à connaître cette vie nouvelle en lui. Et c'est pour cela que voilà où est notre espérance. Hein, voilà les raisons de notre foi. Et on a déjà vu hein, en cours de cette étude déjà beaucoup de choses auparavant. Et je voulais voir toutes ces choses-là parce que en les mettant à chaque fois ensemble, ça apporte tellement, tellement, tellement plus de poids en faveur de la foi en Dieu, de comprendre la parole et de la voir comme la parole de Dieu et de l'appliquer à notre vie. Mais Dieu voulant, donc, la prochaine fois, on regardera à d'autres prophéties. Et bien sûr, comme on est dans cette période où nous célébrons Noël, on va voir des prophéties concernant justement le Messie. Hein, et vous connaissez, hein, pour beaucoup d'entre vous, vous connaissez déjà très bien ces passages-là. Et Dieu voulant, on regardera bien plus tard encore les raisons pour lesquelles justement on peut croire en Jésus-Christ. Qu'est-ce qui fait que même après 2000 ans, même si les gens peuvent nous considérer comme des farfelus, on a de grandes et de bonnes raisons de croire en Jésus-Christ. Alors, y a-t-il des questions?